Antoine Bateau par Funk Brentano. Nul artiste n'a exercé une plus grande influence sur son temps et sur le siècle suivant qu'Antoine Bateau de Valenciennes, pas même Michel-Ange ou Raphaël ou Rubens. Son style, aux figurines fines et légères, sveltes, d'une allure pimpante, a dominé l'art français jusqu'à la Révolution. Quant à sa facture, on veut dire sa manière de peindre, reprise par Chardin, puis par les grands Anglais, Constable et Turner, continuée par Delacroix, elle a reparu avec une énergie et un éclat nouveau sous le pinceau des plus célèbres impressionnistes modernes, Manet, Monet, Renoir, Sisley et leurs continuateurs. Et cependant, Bateau mourut à 37 ans. À 37 ans comme Raphaël et comme Raphaël, d'un mal de poitrine. Il en sentit les premières atteintes sur ses 27 ans et dès lors comprit que ses jours étaient comptés. D'où la mélancolie, si délicate et si émouvante à la fois, répandue sur son œuvre, malgré la grâce, la rêverie si tendre, les caresses qui en font le charme prenant. Bateau n'a pas été le peintre de l'amour. L'amour, il ne l'a pas connu. Il était le peintre des rêves amoureux, de l'embarquement pour Cythère, l'île enchantée, enchanteresse, dans les brumes bleues célestes de l'horizon où il ne devait jamais aborder. En une poésie célèbre des fêtes galantes inspirées par l'œuvre de Bateau, Verlaine a délicieusement caractérisé l'âme du peintre-poète. Elle est souvent citée. « Votre âme est un paysage choisi. Que vont charmant masque et bergamasque, joueurs du luth et dansant, et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur. Et leurs chansons se mêlent au clair de lune, au calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Mais pourquoi s'obstine-t-on à faire de Bateau un peintre flamand? Il était originaire de Valenciennes, qui n'a jamais été ville flamande. Son père se nommait Jean-Philippe Bateau, ce qui n'est pas un nom flamand. Sa mère s'appelait Michel Lardenois, ce qui n'est pas non plus un nom flamand. Et sa grand-mère Catherine Reuse, ce qui n'est toujours pas un nom flamand. Quant à son œuvre, il faudrait être sorcier pour faire jaillir une inspiration flamande. Et s'il en est une dont il faille la rapprocher, ce serait celle de son contemporain Marivaux, qui est bien l'écrivain du monde le plus éloigné du génie de la Flandre. Marivaux, c'est du Bateau au théâtre, avec plus de fermeté peut-être, des lignes plus nettes, mais autant de grâce et de charme. Bateau, c'est du Marivaux en peinture, avec plus de mélancolie et de nonchalance, et ceci à cause de l'état maladif de l'artiste peignant ses tableaux. Jean-Antoine Bateau naquit à Valenciennes le 16 octobre 1684. Marivaux naquit à Paris en 1688. Son père était couvreur, mais un maître couvreur, couvreur et charpentier, et qui tenait son rang parmi les bourgeois de la ville. C'était un homme rude et impérieux, et qui eût désiré que son fils suivît la carrière paternelle. Il ne paraît cependant pas avoir fait trop durement obstacle à la vocation de son gamin, qu'il plaça en apprentissage chez un peintre de la ville, nommé Gérin, dont quelques œuvres sont conservées. Gérin était un bon peintre provincial, mais Paris attirait le jeune homme, Paris la grande ville, où déjà devait venir travailler et produire tout homme désireux en France, d'acquérir gloire et fortune. En 1702, âgé de 18 ans, Bateau quitta Valenciennes à la suite d'un peintre décorateur, Métayer, qui, dans la capitale, employa le jeune artiste à faire des décors d'opéra. Cette occupation, qui ne laissait pas d'être rémunératrice, dura quelque temps. Après quoi, le travail faisant défaut, Métayer abandonna son jeune collaborateur, qui se trouva sans ressources sur le pavé de Paris, car le père Bateau, le couvreur charpentier, puisqu'aussi bien son gamin prétendait n'en faire qu'à sa tête, voulait que du moins celui-ci suffît par lui-même à tous ses besoins. Dures années pour le jeune artiste. Il parvient à se faire embaucher par un marchand de tableaux religieux établi sur le pont Notre-Dame. Car au début du XVIIIe siècle, la plupart des ponts de Paris étaient encore garnis de maisons comme une rue. Ils en étaient bordés au ras des trottoirs, on disait des banquettes, sur les deux bords, en aval et en amont. Un provincial pouvait passer de la rive droite sur la rive gauche sans se douter qu'il eût franchi le fleuve. Dans les maisons du pont Notre-Dame se groupaient des marchands de tableaux. et des catégories les plus diverses. L'un d'eux débitait en grande quantité des tableaux de piété. La photographie n'existait pas. Et puis les bonnes gens aimaient la couleur. Notre homme vendait donc des tableaux peints à la main et demandait à ses artistes de faire le plus vite possible afin de pouvoir écouler sa marchandise bon marché. Chacun de ces derniers avait sous les yeux un modèle, un patron, dont il ne devait pas s'écarter. Notre ingénieux industriel, pour plus de célérité, avait déjà imaginé la division du travail, la taylorisation, bien avant les Américains et les usines Ford, mais elle s'appliquait non à des automobiles, mais à des tableaux de piété. L'un des travailleurs, sur toute une série de saintes vierges, peignait exclusivement les manteaux bleus, puis passait la toile à son voisin qui posait les blancs, un troisième rehaussait les visages de tons incarnadins, un quatrième peignait les fonds, ainsi de suite jusqu'au dernier qui, d'un bel or éclatant, entourait glorieusement les figures d'auréoles resplendissantes. C'était déjà, comme on voit à Paris, sous Louis XIV, parmi les artisans du pont Notre-Dame, le travail à la chaîne que l'on croit inventé de nos jours. Parmi ses compagnons, Watteau ne tarda pas à se distinguer par une sûreté et une rapidité d'exécution exceptionnelle. Il avait surtout le talent de peindre en un tournement l'image de Saint-Nicolas, qui était un saint très demandé. Il le peignit en entier, à lui seul, et avec autant de prestesse que s'il le fait en travail divisé. « Je savais mon Saint-Nicolas par cœur, disait-il à un ami, et me passait de l'original. » En rétribution de ce beau travail, le jeune peintre recevait chaque jour une assiettée de soupe bien chaude, et en fin de semaine, un petit écu de 3 livres qui ferait 100 francs, valeur actuelle. On ne sait dans quelles conditions Watteau quitta son patron du pont Notre-Dame pour devenir l'élève d'un très bon et intéressant artiste, Claude Giot, né à Langres en 1673, et qui, ayant vu quelques dessins et tableaux du jeune peintre, lui demanda de venir demeurer chez lui. Watteau avait 21 ans. Le célèbre marchand de tableaux Gersin, qui sera l'un des protecteurs de notre artiste, dira plus tard « Giot a été le seul maître de Watteau. Aussi bien ne nous y trompons pas. Sans nier l'intense et exquise originalité de Watteau, on ne peut méconnaître la grande influence exercée sur lui par son maître qui lui traça les voies à suivre. Qu'il s'agisse des personnages de la comédie italienne ou de ses motifs décoratifs en rinceaux fins et légers ou des scènes galantes, partout on se heurte à Giot, précurseur de Watteau. On a son portrait. Giot a une figure de gamin hirsute, joufflu, l'air moqueur, de grands yeux ronds, qui vous rit au nez et un petit menton pointu. Il a une physionomie aussi vive et éveillée que celle de son illustre élève et triste, lasse, désabusé. Puis Watteau rompit avec son maître quand il eut conscience que ses conseils ne lui serviraient plus de rien. Passant les ponts, il s'en vint demeurer au palais du Luxembourg, dont le concierge, nous dirions aujourd'hui le conservateur, Claude Audran, était un homme de goût et qui s'était distingué dans la peinture décorative. Il était neveu du célèbre graveur Gérard Audran. Cette entrée de Watteau au palais du Luxembourg sera l'événement décisif de sa vie, et par la contemplation, l'étude quotidienne de la splendide série des Rubens, aujourd'hui au Louvre, la vie de Marie de Médicis, alors dans toute leur fraîcheur, leur pureté et leur éclat, et par la fréquentation même du jardin du Luxembourg, qui était encore d'une étendue, d'une beauté dont l'état actuel ne nous donne plus une idée. De nos jours, le jardin est saccagé, mutilé. Après la guerre de 1870, on en a aliéné une partie dans les vues les plus sottement utilitaires. Au XVIIe siècle, il était dans toute sa splendeur. Sous les voûtes verdoyantes que l'automne venait caresser de ses tons dorés et de pourpre brunis, déambulait la société la plus élégante. Au goût et au talent varié de Giot, au pinceau de Rubens et aux promenades du Luxembourg sur la fin du règne de Louis XIV, ajoutez, naturellement, le tempérament et le talent personnel de l'artiste, vous aurez tout Watteau. De ce moment, la vie de Watteau coulera uniment sous la mélancolie grandissante que mettra dans son caractère, dans sa pensée, dans son œuvre, le mal qui le mine et dont il sent la teinte profonde. Deux protecteurs intelligents facilitèrent sa carrière. Crozat, un financier richissime, puis François Gersin, le marchand de tableaux du pont Notre-Dame, mais pas celui qui faisait peindre les Saint-Nicolas, et le célèbre teinturier en écarlate, Jean de Julienne. Watteau était d'un abord froid, embarrassé. Il était d'humeur sombre et timide. Il parlait peu, mais ses mots tombaient justes, à l'emporte-pièce. Son esprit ne laissait pas d'être caustique. Libertin d'esprit et sage de mœurs, dit un contemporain. Son état maladif lui donnait un caractère difficile, susceptible à l'excès. Il se sépara brusquement de son maître J.O., dans des conditions sur lesquelles il ne voulut jamais s'expliquer, et se sépara de la même façon de son unique élève, Pater, de Valenciennes, comme lui. Nerveux, ne tenant pas en place, ne pouvant demeurer longtemps dans le même logis, et en changeant sans cesse, sous les prétextes les plus futiles, dégoûté de lui-même et de ce qu'il faisait et de ce qui l'entourait. Ce qui fut très beau dans la vie de Watteau, ce fut son amour de l'art, son désintéressement. Il est fort peu prévenu pour ses ouvrages, écrit le comte de Caylus. Le prix qu'il en retire ne le touche pas. Il n'aime point l'argent. Et Gersin, le marchand de tableaux, note de son côté qu'il devait insister pour que Watteau consentît à accepter une rétribution un peu en harmonie avec la valeur de ses œuvres. L'artiste allait jusqu'à se fâcher quand il estimait trop élevées les sommes qu'on lui offrait. Ici se place l'anecdote de la perruque. Un maître coiffeur apporta à l'artiste une ample perruque, tout des plus ordinaires, mais dont Watteau fut enthousiasmé. Elle lui parut, dit Caylus, le chef-d'œuvre de l'imitation de la nature, mais ce n'était certainement pas celui de la nature frisée. Quand l'artiste voulut payer, maître Figaro, fort avisé, déclara tout hautement qu'il se contenterait d'une ou deux peintures, et Watteau de lui choisir de petits tableaux des meilleurs de son atelier. J'arrivais, peu après la conclusion de cette bonne affaire, ajoute Caylus. En vérité, il en avait scrupule. Il voulait encore faire un tableau pour le perruquier. Avec peine, je rassurais sa conscience. Les tableaux d'Antoine Watteau sont estimés aujourd'hui à l'égal de ceux des plus grands maîtres. Frédéric II, roi de Prusse, n'appréciait pas seulement les écrits de Voltaire, mais les peintures de Watteau. Aussi faut-il de nos jours faire le voyage de Berlin et de Potsdam pour en admirer les chefs-d'œuvre, l'embarquement pour Cythère, dont l'esquisse est au Louvre, et l'enseigne pour Gersin. En France, la réaction produite sous la Révolution et l'Empire par les codes de David, continuée par Ingres, voire par les romantiques, fit déchoir dans le goût public l'œuvre de Watteau. Le baron de Lascaz a heureusement légué au Louvre l'une des merveilles de l'artiste, son célèbre Gilles ou Pierrot, tout de blanc vêtu, l'une des figures de la comédie italienne, avec à l'arrière-plan ses partenaires Pantalon, Colombine, Arlequin et Scaramouche. En une vente publique, ce tableau atteindrait de nos jours plusieurs millions, 3 ou 4 millions de francs et davantage, sans doute. Lascaz en fit l'acquisition à un prix insignifiant. Le tableau figurait à l'étalage extérieur d'un brocanteur posé de champs dans la rue. Les chiens, au passage, y levaient la patte. Le soleil, la pluie, la boue s'y abattaient en une libre concurrence. Et le vendeur, désespérant de se débarrasser de ce bibelot, aux dimensions encombrantes, y avait crayonné à même la peinture, les vers du refrain, que Pierrot serait content s'il avait l'heure de vous plaire. C'était Antoine Watteau par Funk Brentano.